France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Où sont les preuves de l'infiltration du Hamas au sein de l'UNRWA? En première ligne sur l'aide alimentaire à Gaza, le rapport d'évaluation prend ses distances avec les accusations d'Israël ce soir, alors que l'enclave meurt de faim et que la nourriture a toujours autant de mal à entrer. Le tour de vis sur l'assurance chômage, c'est pour le 1er juillet. Le gouvernement reprend la main et par décret pour durcir les règles. L'actualité, c'est encore Kenji Girac, un coup de feu et beaucoup de question à Biscarros. Le chanteur doit être opéré après avoir été blessé par balle. Il parle d'un accident. L'illettrisme recule, mais très doucement. 4% des Français en souffrent encore. Et puis, une bagarre autour d'un film de requin à la fin de ce journal. Juste après, quelle autorité après les annonces du Premier ministre pour la jeunesse? Vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'accusation avait eu un effet dévastateur. L'UNRWA, pilier de l'aide alimentaire dans la bande de Gaza, infiltré par le Hamas. C'est Israël qui accuse en janvier dernier, persuadé que certains membres de l'organisation onusienne ont participé à l'attaque du 7 octobre. Plusieurs pays réduisent alors, voire stoppent leur aide à l'organisation. Mais qu'en est-il réellement? Où sont les preuves? Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Ce sont les questions que pose aujourd'hui le comité indépendant de l'ONU, chargé d'évaluer la situation.
C'est ça, et pour bien comprendre, il faut se souvenir qu'Israël avait formulé deux types d'accusations. Elle avait d'abord accusé donc 12 employés de l'agence d'avoir participé au massacre du 7 octobre, puis elle a estimé que 10% des personnels à Gaza étaient liés à des groupes terroristes. Le rapport ne répond pas à la première accusation, mais il indique clairement qu'il n'y a pas, à ce stade, de preuves apportées par les Israéliens pour la deuxième affirmation. Pour les auteurs du rapport, l'UNRWA est la plus investi dans le domaine de l'impartialité aujourd'hui. Elle soumet la liste de ses employés à Israël. Et depuis 2011, aucune réclamation sur cette liste n'a été formulée. En mars dernier, Israël a demandé les numéros de carte d'identité pour les employés palestiniens. C'est à partir de là que le chiffre des 10% d'infiltrés présumés a été formulé. Mais les rapporteurs considèrent qu'Israël, donc, n'a pas apporté de preuves pour ces accusations. Pour autant, le rapport souligne que l'UNRWA a des problèmes persistants en matière de neutralité. Le rapport estime notamment que l'agence n'a pas les moyens de réellement contrôler l'usage de ses bâtiments par les groupes armés. L'UNRWA reste un acteur clé à Gaza. Le gouvernement israélien dénonce son action depuis des années. 16 pays avaient suspendu leur soutien financier en janvier dernier.
Voilà, alors que le rôle de l'organisation, vous le disiez, est déterminant dans la bande de Gaza avant le 7 octobre en matière d'éducation, en matière de santé et depuis le début de la riposte israélienne pour l'aide d'urgence humanitaire. Comme plusieurs organisations qui en ressortent en faisant ce constat, la situation y est critique. Bonsoir Gwendal Lavina.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, c'est ce que vous ont dit des médecins de l'IRC, l'International Rescue Committee.
Oui, les docteurs Kourechi et Dawas reviennent tout juste de l'hôpital Al-Aqsa, situé dans le centre de la bande de Gaza. Ils décrivent un établissement surchargé avec très peu de matériel pour travailler. Le docteur Kourechi est chirurgienne vasculaire.
Des équipements basiques dont on a besoin pour toute opération, comme des tubes d'aspiration ou des scalpels, ne sont pas disponibles, pas plus que des draps qui sont censés garantir la stérilisation des opérations.
Le même désarroi à chaque fois, comme lorsqu'un jeune homme se présente avec la jambe déchirée par des éclats d'obus.
Quand il est arrivé avec cette blessure horrible aux urgences, la chose la plus propre que j'ai trouvée à placer sur ce qu'il restait de sa jambe et qui n'était pas encore plein de sang a été une couche pour bébé.
Le docteur Dawas, chirurgien également, en a assez de devoir se satisfaire de ces conditions.
Il y a un niveau minimum de sécurité et d'hygiène dans lequel vous pouvez espérer travailler en tant que médecin. Je suis déjà allé à Gaza plusieurs fois et ce n'était pas comme ça. L'idée que les conditions étaient aussi mauvaises avant est fausse. C'est le résultat de la guerre.
Tous les deux sont prêts à repartir, mais dénoncent l'aide qui ne rentre pas dans Gaza, une aide dont ils ont désespérément besoin pour soigner.
Et le président français a renouvelé son appel à un cessez-le-feu immédiat et durable dans le territoire palestinien. palestinien aujourd'hui. Emmanuel Macron a eu Benjamin Netanyahou au téléphone, tandis que l'on apprenait le départ du chef du renseignement militaire israélien. C'est la première personnalité politique ou militaire à démissionner depuis l'attaque du 7 octobre.
En France, l'État reprend la main sur l'assurance chômage.
Parce que pour le gouvernement, l'échec récent des négociations sur l'emploi des seniors entre partenaires sociaux enterre celle prévue sur l'assurance chômage. Pas la peine d'attendre un autre désaccord. En clair, le Premier ministre veut encore durcir les règles d'indemnisation. Bonsoir Agnès Soubiran.
Bonsoir.
Et ça se fera à travers un décret pour le 1er juillet prochain.
Un décret dit de carence et qui s'appuiera sur le document de cadrage de l'été 2023 qui prévoit des économies sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Alors le ministère du Travail répète que rien n'est décidé, que rien n'est acté, que des consultations auront lieu dans les semaines qui viennent avec les partenaires sociaux, qu'il existe, je cite, des choses intéressantes dans le projet d'accord des syndicats qui n'a pas abouti, mais l'objectif reste un durcissement des règles. Le Premier ministre a d'ailleurs la semaine dernière énoncé les trois leviers possibles, la durée d'indemnisation, la condition d'affiliation, c'est-à-dire le temps qu'il faut avoir travaillé pour être indemnisé, et enfin le niveau de l'indemnisation. Gabriel Attal n'est pas favorable à une baisse du niveau des versements, mais préférerait durcir les conditions d'affiliation et réduire la durée d'indemnisation, durée qui est déjà passée de 24 à 18 mois il y a un peu plus d'un an et qui pourrait descendre à 12 mois. La CGT parle ce soir d'un nouveau saccage après les réformes déjà controversées de 2019 et 2023. Et pour la CFE-CGC, il reviendra au gouvernement d'assumer les conséquences sur la consommation et la politique des diminutions des droits des chômeurs.
Explication signée Agnès Soubiran. Et quel sera l'avenir des salariés de Duralex, ceux de l'usine historique du Loiret, qui subit toujours les conséquences de la crise énergétique? Ils jouent leur avenir mercredi devant le tribunal de commerce d'Orléans, 3 ans après une première procédure. Une centaine de personnes mobilisées aujourd'hui devant l'usine à la chapelle Saint-Mémin avec un mot d'ordre, rappeler l'importance économique et le symbole de l'entreprise. Le reportage est signé Marie Dorset.
Devant l'entrée de l'usine, les drapeaux de la CGT et du Parti communiste côtoient les écharpes tricolores. Cette grille, Jean Moreau l'a franchie tous les jours pendant 10 ans.
Cette grande cheminée, ce château d'eau, on les voit de partout. Et ça, je suis fier de ça. Et je veux pas que ça tombe. C'est comme un phare qui signale qu'il y a encore du boulot ici.
Du boulot pour 230 salariés actuellement. Ils n'ont pas été appelés à débrayer ce lundi. L'usine tourne à flux tendu et à 2 jours de l'audience devant le tribunal de commerce, il ne faut pas laisser tomber les clients. Alors la population est venue à leur place. De quoi mettre du baume au cœur à Daniel Calzada. Il a travaillé plus de 37 ans chez Duralex à la chapelle Saint-Mémin.
Ça veut dire que la population tient à cette entreprise. Ça a toujours été une force, c'est un fleuron Duralex.
Et cet attachement à l'entreprise, c'est d'ailleurs un atout pour la défendre, assure Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste venu échanger avec les manifestants.
Mais bien sûr, tout le monde connaît ces verres avec l'âge au fond. Tout le monde a bu dedans et on doit continuer. Il vaut mieux boire dans des verres produits en France, de marque française, plutôt qu'étrangère ou en plastique. On doit défendre cette marque française, historique, ancré ici dans cette région.
Pour ça, il promet d'écrire au ministre de l'Industrie et demander un allègement des charges sur la consommation énergétique pour les industries du verre.
Reportage France Bleu Orléans et c'est donc mercredi que le tribunal de commerce doit se prononcer sur le redressement judiciaire de l'entreprise. Il devra aussi nommer un administrateur et un mandataire judiciaire pour accompagner Duralex dans sa recherche de repreneur. Après la double annulation d'une conférence la semaine dernière à Lille, Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, est à Sciences Po Paris ce soir pour un autre des discours qu'il donne depuis ces dernières semaines dans les universités. Que s'est-il passé à Biscarrosse la nuit dernière? Le chanteur Kenji Girac a été grièvement blessé au thorax sur une aire d'accueil des gens du voyage. Le chanteur a été hospitalisé à Pessac, près de Bordeaux. Ses jours ne sont pas en danger. Il dit s'être blessé lui-même, un accident. Faustine Calmel, vous êtes devant l'hôpital en direct. Bonsoir, mais les circonstances restent encore assez floues.
Oui, puisque le chanteur dit effectivement s'être lui-même tiré dans la poitrine avec ce 9 mm acheté la veille dans une brocante. Des propos qui ont été repris, confirmés par un de ses oncles qui raconte avoir passé la soirée avec Kenji Girac et que ce dernier jouait avec ce pistolet quand le coup est parti. Mais quand ils arrivent sur les lieux tôt ce matin, les gendarmes se heurtent à des habitants du campement qui refusent de leur raconter quoi que ce soit. Flou également sur l'arme utilisée, puisque aucun pistolet n'a été retrouvé dans ou près de la caravane où se sont produits les faits. C'est plus loin, dans un fossé aux abords du campement, que les gendarmes récupèrent un peu plus tard un Colt 45, sans savoir si cette arme est bien celle avec laquelle le chanteur se serait blessé. Il est toujours, en tout cas Kenji Girac, ce soir hospitalisé près de Bordeaux, hôpital Olévêque, spécialisé en cardiologie. Ses proches, mère, frère, manager, une vingtaine de personnes en tout sont ici, sur place. Ils se rendent régulièrement à son chevet, ressortent du bâtiment, y retournent pour voir donc Kenji Girac, qui semble bien ce soir hors de danger.
Faustine Calmel, en direct de Pessac, près de Bordeaux, avec Mickaël Simon, un troisième jeune interpellé à Grande-Synthe, dans le Nord, un mineur de 15 ans, le cousin d'un des deux mis en cause dans la mort de Philippe il y a 15 jours. Les enquêteurs cherchent à déterminer son éventuelle implication. L'adolescent, lui-même agressé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Trois jours après être rentré dans le consulat d'Iran avec, disait-il, des ceintures d'explosifs, un homme est jugé aujourd'hui en comparution immédiate à Paris. Une audience que vous suivez, Delphine Evenou, bonsoir.
Bonsoir.
Les armes qu'il portait sur lui étaient en réalité factices, mais il risque de la prison.
Le prévenu, cheveux poivre et sel, poignée sous attelle, silhouette frêle, a du mal à entendre le président de la 23e chambre. L'audience commence chaotiquement. Un interprète tente de fluidifier les échanges, mais c'est bien un dialogue de sourds qui s'entame. Car le sexagénaire arrivé en France il y a plusieurs décennies n'a qu'une obsession, dénoncer le régime iranien. Chaque question sur les faits qui se sont déroulés vendredi amène à une réponse un peu confuse, il faut le dire, sur ce qui se passe dans son pays d'origine. Mais ce n'est pas l'objet dont on est saisi aujourd'hui, rappelle le président une fois, deux fois, trois fois, en finissant par s'agacer et même par crier. Alors on finit par comprendre que les arrestations de sa sœur jumelle et d'un de ses cousins la semaine dernière ont fini par le convaincre d'agir, de se venger. Vous reconnaissez, monsieur, que vous avez voulu faire peur, demande le tribunal. Des témoins ont vu que le gilet explosif était factice, mais d'autres ont paniqué, sont partis en pleurant. C'était du bluff, mais oui, j'ai voulu lui faire peur, reconnaît l'opposant, tout en renvoyant au terrorisme du régime iranien. Monsieur a voulu terroriser, conclut le parquet, qui vient de requérir 12 mois de prison, dont 4 avec sursis. Son avocate, elle, est en train de plaider la relaxe et met en avant la liberté d'expression.
Compte rendu d'audience signé Delphine Evenou. Aux États-Unis, le procès de Donald Trump entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'ancien président américain, accusé d'avoir payé pour étouffer des affaires embarrassantes en pleine campagne présidentielle, son avocat le dit totalement innocent, là où le procureur y voit la tentative de fomenter un complot criminel et avoir ensuite tenté de le dissimuler. Et puis après le déblocage de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine par le Congrès américain ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé Joe Biden au téléphone, le président américain, pour le remercier du soutien indéfectible des États-Unis à l'Ukraine. En Colombie, l'image du week-end, ce sont ces centaines de milliers de personnes qui ont manifesté dans les grandes villes du pays. Première contestation de masse à laquelle doit faire face le président Gustavo Petro depuis son élection il y a 2 ans. L'état de santé, l'état du système de santé cristallise la colère, mais le président y voit ce qu'il appelle un coup d'état mou orchestré par ses opposants, Olivier Poujade.
À l'origine de la mobilisation ce week-end, les blouses blanches, les personnels de santé, un secteur qui est au bord de l'effondrement en Colombie, modèle financé en grande partie par l'État, mais dont la gestion est assurée par des entreprises privées, les EPS, entités de promotion de la santé, des organismes surendettés qui ne paient pas leurs clients et imposent des délais de plusieurs mois aux patients, de l'argent public géré par des entreprises privées, la raison de la crise pour Jonathan Garcia Ruiz, expert en politique de santé à l'Université d'Harvard.
Ces derniers mois, les EPS ont réclamé au gouvernement une augmentation des contributions. Le gouvernement a vu les choses différemment et ouvert une enquête pour savoir ce qu'étaient devenus les fonds publics dépensés par les EPS, mais qui n'ont pas été utilisés pour la prise en charge des patients. Ça fait partie des raisons pour lesquelles le gouvernement a voulu réformer le système de santé.
Un projet de réforme visant à nationaliser l'ensemble de la santé colombienne, projet du gouvernement Petro, largement rejeté début avril par les partis du centre et de la droite libérale, une opposition en première ligne s'aligne aussi bien pour attiser dans la rue la contestation que pour bloquer au Congrès les solutions apportées par Gustavo Petro, des élites conservatrices selon les termes du président colombien, mobilisées pour le statu quo quand l'autre partie du cortège dénonçait hier l'incapacité du gouvernement à changer de modèle.
Olivier Poujade, et puis le Charles de Gaulle, fleuron de la marine française, part pour une mission de 6 semaines en Méditerranée, dont 2 sous commandement de longtemps. C'est une première. Il quitte Toulon après 8 mois de travaux et avec au moins 3000 marins à bord.
4 millions de Français ont encore des difficultés à l'écrit.
Ça représente un adulte sur 10 et 4% souffrent d'illettrisme. C'est le constat de l'INSEE ce soir. C'est encore beaucoup. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Même s'il y a une petite progression.
Oui, 10% des adultes jusqu'à 64 ans éprouvent des difficultés à comprendre un texte simple, 9% à écrire et 5% ont du mal à tout simplement lire des mots. Le taux d'illettrisme était de 7% en 2011, lors de la dernière enquête de l'INSEE. Alors c'est vrai, il y a une amélioration liée notamment au renouvellement des générations. Car ce sont les plus âgés, les 55-64 ans, qui ont le plus de lacunes à l'écrit. Les 18-24 ans s'en sortent beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que les plus anciens sont allés moins longtemps à l'école. Les plus jeunes ont désormais des scolarités plus longues, ils sont plus diplômés. On voit dans cette enquête que le diplôme a un rôle essentiel dans la maîtrise des fondamentaux, mais aussi le diplôme des parents, et les difficultés sont plus marquées dans les quartiers défavorisés et les départements d'outre-mer. Alors en calcul, en revanche, l'effet générationnel est moins fort. 10% des plus jeunes ont toujours des difficultés à compter. C'est 12% pour l'ensemble des tranches d'âge. Et les femmes savent moins bien calculer que les hommes, ce qui confirme ce que l'on a observé dans d'autres études ces dernières années, c'est-à-dire la baisse du niveau des élèves en mathématiques et les moins bons résultats des jeunes filles en particulier.
La lutte contre l'illettrisme, on en reparle demain dans le 13-14 avec comme invité Vladimir Passeron, notamment chef du département de l'emploi et des revenus d'activité à l'INSEE. Quasiment 2,5 milliards de travailleurs sont exposés au changement climatique et ils créent des risques sanitaires graves pour 70% des travailleurs dans le monde, que ce soit à cause de la chaleur excessive, des rayons UV ou encore de la pollution de l'air. Étude de l'Organisation internationale du travail aujourd'hui. Et comme c'est aujourd'hui la journée de la Terre. Plutôt que de jeter, pensez à donner les objets dont vous ne vous servez plus, car si la seconde main marche fort, selon l'ADEME, on jette encore pour 630 millions d'euros de produits chaque année. C'est un reportage d'Hugo Ossiou.
Autrefois, Léa, 25 ans, pratiquait la vente de ses vêtements. Aujourd'hui, elle est passée à la vitesse supérieure.
Je les donne aussi pour faire un échange. C'est plus humain, c'est moins égoïste. Et puis là, il faut vraiment agir, quoi. On n'a pas besoin d'acheter du neuf tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Son ami Jordan, lui, a déjà bénéficié de dons sur Internet.
Moi, j'ai récupéré, ouais, chercher un album photo que j'ai trouvé sur le bon coin. J'étais surpris justement que la dame veuille rien en échange.
Ce genre d'échange est de moins en moins surprenant. Une application y est même dédiée. Ça s'appelle Give et on y trouve de tout. Les utilisateurs donnent aussi bien des livres que des vêtements ou des meubles et même de la nourriture. Hakim Baka a créé l'application en 2017.
Voilà, sur Give, on n'est vraiment que sur du don. Il n'y a pas de transaction, il n'y a pas un euro qui circule. Tout ce qu'on poste n'est que don. Et du coup, les personnes qui viendront récupérer ces objets ne débourseront aucun euro.
L'application fonctionne bien. 5 millions de personnes sont déjà inscrites. Ça a un impact non négligeable sur notre bilan carbone.
On estime qu'à date, on a économisé plus de 250 000 tonnes de carbone. Et il y a évidemment un deuxième rebond qui est un rebond plutôt social parce que c'est aussi une économie de pouvoir d'achat. Je récupère des objets qui sont gratuits et évidemment, j'économise de l'argent aussi.
Impossible d'abuser de la générosité des utilisateurs. Pour obtenir un objet, vous devez dépenser une banane virtuelle. Banane qui ne peuvent s'acquérir qu'en faisant vous-même un don.
Encore un record pour les jeux d'argent. 13 400 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, selon l'autorité de régulation des jeux. C'est une hausse de 3,5%. Les infractions n'étaient pas suffisamment caractérisées à l'encontre de Guillaume Meurice, critiqué pour un sketch évoquant Benjamin Netanyahou dans l'émission Le Grand Dimanche Soir. 2 plaintes avaient été déposées, classées sans suite aujourd'hui. Et voici un film en eau trouble. Sous la Seine, c'est le titre du long métrage de Xavier Jeans. L'histoire d'une chasse aux requins à Paris. Le film doit sortir le 5 juin sur Netflix, sauf si la justice en décide autrement. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
Une confrontation avait lieu aujourd'hui entre le réalisateur Vincent Dietschke et la production Netflix qui l'accuse de lui avoir volé son idée.
Voilà, le film de requin est un genre très répandu qui fait recette avec un festival dédié et des dizaines de réalisateurs qui chaque année tentent de rivaliser avec l'alpha et l'oméga de la sharksploitation, les fameuses dents de la mer de Steven Spielberg. Dans le cas présent, deux réalisateurs qui ont travaillé chacun de leur côté sur le scénario d'un gros poisson tueur dans la Seine. Xavier Jeance, avec un film prévu pour sortir sur Netflix le 5 juin, Sous la Seine, avec Bérénice Bégeot. Et Vincent Dietschy, avec un projet lui baptisé Silure, démarré il y a 10 ans, toujours à l'état de scénario, protégé à la CACD, la Société des auteurs, mais qui n'a jamais obtenu de financement, en dépit de contacts avec un agent des producteurs que le cinéaste soupçonne aujourd'hui de trahison. Il ne croit pas à la coïncidence et a décidé d'intenter une action pour parasitisme. Ce n'est pas tout à fait du plagiat, puisque la plainte porte sur l'idée, pas sur le scénario. Vincent Dietschy, en tout cas, s'estime volé et réclame l'annulation de la sortie du film concurrent, ainsi que 3 millions d'euros de dommages et intérêts.
Voilà, le procès est normalement prévu à la mi-juin.